Bonjour à tous. Alors on continue notre parcours dans le livre de l'Exode. Et ce matin, on arrive à un chapitre, chapitre 31, qui est peut-être, en tout cas c'est ce que je me suis dit pour moi, un chapitre auquel on ne prête pas trop attention. Je ne sais pas pour vous, mais dans la Bible, il y a un peu différents types de récits qu'on aime plus ou moins lire. Il y a les récits, il y a les chapitres avec les généalogies. En général, on les saute vite. Ça nous semble pas très intéressant. Il y a un enseignement dedans, mais j'avoue en tout cas pour moi à souvent avoir sauté ces chapitres-là. Il y a des chapitres qu'on retient très bien parce que c'est des histoires qui sont marquantes. Et puis il y a des chapitres qui, passent un peu à l'as. Ou même quand on fait un effort, on se rappelle plus trop que c'était dans la Bible. Est-ce que vous savez du coup ce qui se passe à la fin des instructions que Dieu donne à Moïse pour la construction du tabernacle? Sans regarder dans votre Bible maintenant, en Exode 31. Est-ce que comme ça vous vous souviendriez de ce qui se passe à la fin? Peut-être que vous penseriez tout de suite au chapitre 32, en fait, qui est le veau d'or. Pendant que Moïse est sur la montagne, en train de recevoir les instructions de Dieu, eh bien, Exode 32, qu'on verra dimanche prochain, nous dit que le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Mais entre deux, en fait, quand Dieu parle, il y a encore quelque chose qu'il veut dire à Moïse. Et ce qui est étonnant, c'est que il va pas seulement donner des instructions pour la construction, mais il va même désigner les personnes qui vont construire. Et en plus de cela, il va aussi rappeler le sabbat et en faire le lien avec l'alliance. On va voir tout ça ce matin et j'aimerais d'abord qu'on lise ensemble le texte de l'Exode chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse et dit « Vois, j'ai appelé par son nom Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente. La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous les ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements spéciaux, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour le sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum aromatique pour le sanctuaire. Ils exécuteront, tout comme je l'ai ordonné. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Toi, parle aux Israélites et dis-leur, vous observerez absolument mes sabbats. Car ce sera un signe entre vous et moi dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat car il sera saint pour vous. Celui qui le profanera sera puni de mort. Toute personne qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour ce sera le sabbat, le jour férié, consacré à l'Éternel. Quiconque fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les Israélites observeront le sabbat. Ils célébreront le sabbat dans toutes leurs générations comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. On voit avec ce dernier verset que c'est seulement quand Dieu a aussi désigné les ouvriers, a aussi rappelé le sabbat, qu'il a fini. Alors, que pouvons-nous voir dans ce chapitre ce matin? On est dans cette grande section où Dieu se révèle en venant habiter dans son peuple. Donc on voit que Dieu désigne et qualifie des personnes pour réaliser tout ce qu'il a donné à Moïse. On voit que Dieu scelle son alliance avec un signe, le sabbat. C'est nouveau. Et j'aimerais aussi que l'on voit à travers ce passage que finalement, Dieu nous appelle à son service, ainsi qu'à rentrer dans son sabbat, ce que le Nouveau Testament appelle son repos. Oui, Dieu, qui nous qualifie pour le service qu'il attend de nous, veut nous faire entrer dans son saint repos. Je pense que c'est un peu l'idée qu'on pourrait retenir de ce passage. Dieu ne veut pas seulement que le peuple soit dans sa présence, ou qu'il soit lui présent au milieu de son peuple. Il veut que le peuple trouve un repos particulier, qu'il se consacre à l'Éternel. Dans cette première partie où Dieu désigne les ouvriers, on a lu que ça commence par « l'Éternel parla à Moïse ». Et puis il y a encore une deuxième fois « l'Éternel parla à Moïse » quand il donne les instructions pour le sabbat. En fait, dans tout le passage qui concerne les instructions du tabernacle, la construction du tabernacle, il y a sept fois l'expression « l'Éternel parla à Moïse ». C'est entre les chapitres 25 et ici 31. Il y a cinq fois avant le chapitre 31. La sixième fois, c'est pour donc désigner les ouvriers. Et donc la septième fois, pour introduire le commandement du sabbat. Je pense, et ça me semble cohérent, et ceux qui sont théologiens le voient aussi comme ça, clairement dans l'intention de Moïse quand il écrit, le fait de répéter cette fois, c'est une allusion à la création. En sept jours, en six jours, il a créé, le septième, il s'est reposé. En six jours, en six fois, il donne les instructions, y compris les ouvriers. Et le septième jour, la septième fois, il rappelle le sabbat. Si on réfléchit un peu plus globalement, et c'est ce qu'on a fait ces dernières semaines, à ce que représente le tabernacle. En fait, le tabernacle, c'est quoi ? On pourrait résumer en disant que le tabernacle, c'est le retour du ciel sur la terre. Dieu était présent avec Adam et Ève, puis il a fermé l'accès au jardin d'Éden, et c'est seulement là que Dieu, finalement, revient au milieu du peuple qu'il s'est constitué. Et c'est tangible, c'est visible. Il y a comme un nouvel acte de création avec la construction de ce tabernacle. Un projet de construction qui marque un retour, on pourrait dire, à la grandeur, à la gloire, à la splendeur du départ qui était là au début. Alors on a vu que le tabernacle est chargé de plein de significations quant à la rédemption. Alors pas seulement à cause des sacrifices ou des offrandes, mais tout ce qu'il constitue, en fait. Mais finalement, ce tabernacle, c'est aussi un morceau, on pourrait dire, de terre sainte dans un monde qui s'est égaré. Je pense que c'est notamment ce qui explique que quand on lit l'Exode, il y a autant de chapitres qui nous expliquent en détail la construction du tabernacle, ben les instructions d'abord, et puis on retrouve après encore autant de chapitres pour nous dire comment les gars ont réalisé ce que Dieu avait dit. Autant de chapitres pour juste ça ? Non, mais c'est pas juste ça. C'est parce que c'est le retour de la présence de Dieu. En entrant dans le tabernacle, Israël entrait dans la demeure de Dieu. Ça, c'est un point important à se rappeler et à retenir. C'est que dans tout ce que l'on lit sur le tabernacle, puis sur le temple, dans la Bible, finalement, ce qui compte, c'est pas le bâtiment en lui-même, c'est pas la tente en elle-même, c'est pas tout, même si c'est très précis comment c'est décrit. Mais ce qui compte, c'est que c'est la gloire de Dieu qui est là. on a vu la semaine dernière avec Matthieu qu'avec le grand sacrificateur, vous vous rappelez, il ne peut rentrer qu'une fois dans l'année. En fait, si on réfléchit bien, c'est vrai pour le grand sacrificateur, mais est-ce qu'il n'y a qu'une seule fois dans l'année où quelqu'un rentre dans le lieu très saint? Ben non. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il se déplaçait, qu'est-ce qui se passait? À chaque fois que le peuple se déplaçait, la gloire de Dieu partait, et qu'est-ce que faisaient les Lévites? Ben les gars, ils retoussaient les manches, et puis ils démontaient, et puis ils rentraient dans le lieu très saint. Ils avaient des instructions pour transporter l'arche, mais finalement, cette tente, ce lieu, n'était saint que parce que Dieu était là. Et ils devaient attendre que la gloire de Dieu parte pour commencer à démonter. Pareil avec le temple. Quand le temple est construit, il y a la gloire de Dieu qui descend sur le temple et qui en remplit le temple au point où tous les prêtres doivent partir, doivent sortir. Et puis, dans tout ce que la Bible nous dit sur le temple, on voit aussi que, avec Ézéchiel notamment, parce que le peuple a désobéi, est tombé dans l'ignorance, dans l'idolâtrie, Ézéchiel a cette vision de la gloire de Dieu qui part du temple. Alors pour les Israélites, c'était inconcevable finalement que Dieu abandonne le temple, abandonne la ville de Jérusalem. Mais la ville va être détruite, les gens vont être déportés. Ce qui compte, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est ce qui fait que le lieu est particulier. D'ailleurs, on voit dans Ézéchiel, qui s'adresse aux déportés, je crois que c'est dans Ézéchiel 11, où Dieu leur dit, « Moi, je suis votre sanctuaire. » Et finalement, ça annonce que ce que l'on a entendu quelques années plus tard, ce que les gens ont entendu dans les rues de Jérusalem, un gars qui disait « Détruisez ce temple et je le reconstruirai en trois jours. » Jésus s'est adressé à ceux qui l'entouraient. Jean qui écrit le dit clairement à l'époque, personne n'a compris, ni les pharisiens, ni les disciples. C'est seulement une fois que Jésus est mort et ressuscité, c'est seulement quand les disciples, nous dit la parole, se sont mis à se rappeler ce que Jésus avait dit, qu'ils se sont laissés instruire, qu'ils ont reconnu ce que disait la parole de Dieu déjà dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas le lieu qui comptait, mais la présence, la gloire de Dieu. Finalement, le tabernacle puis le temple, on voit clairement dans le Nouveau Testament que c'est Jésus qui est le temple. Jésus qui est l'offrande. Jésus qui est le souverain sacrificateur. On voit même que c'est sa chair est comme le voile, parce que le voile se déchire quand il meurt à la croix. Dans le Nouveau Testament, cette chose qui n'était qu'une ombre avant, le tabernacle, devient une réalité. La réalité, c'est Jésus-Christ. Et puis on voit aussi que, dans la parole de Dieu, dans un sens un peu plus éloigné, on va dire secondaire, c'est l'Église qui est le temple. C'est l'Église qui devient la place où le monde rencontre Dieu. Alors je ne parle pas de l'Église bâtiment, je parle bien de l'Église, le rassemblement des personnes qui sont renouvelées par le Saint-Esprit et qui s'attachent au Seigneur. Nous sommes à la fois les prêtres et le temple pour le monde. Et puis on voit aussi encore dans 1 Corinthiens que, dans un sens plus éloigné encore, notre corps lui-même devient le temple de Dieu. Et puis quand j'ai repensé un peu tout ça, j'étais recherché dans l'Apocalypse un passage qui est frappant et qui confirme bien tout cela. C'est dans la vision de Jean dans Apocalypse 21, où il voit ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, cette nouvelle Jérusalem qui descend de Dieu. Dieu, c'est le centre, c'est là où on rencontre, où il rencontre son peuple. On voit que dans ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, il y a des choses qui manquent. Il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de mort. Et il n'y a pas de temple. Oui, c'est écrit. Jean dit, mais je ne voyais pas le temple. C'est Apocalypse, 21-22, qui nous dit, il n'y avait pas de temple, car l'Éternel et l'agneau sont le temple. Quand nous serons auprès de Dieu, nous serons pour toujours parfaitement et pleinement dans sa présence et dans celle de Jésus qui nous a rachetés au prix de son sang. Alors si je viens de prendre quelques minutes pour faire un peu ce rappel, c'est parce que ce qu'on vient de lire ce matin avec les ouvriers, il faut le mettre dans cette perspective. Parce qu'on pourrait dire, mais finalement, ces ouvriers, ce rappel du sabbat, moi ça ne me concerne pas trop aussi. Si, ça nous concerne. Parce que ces ouvriers que Dieu désigne, choisit, qualifie, à qui il donne des équipiers, c'est aussi une image pour nous. Pour le service que nous avons à rendre à Dieu. Une chose qui est frappante avec ce qu'on voit dans les premiers versets, avec Betsalel et Oholiab, c'est qu'il y a une articulation, et je pense que c'est vraiment un enseignement pour nous ce matin, une articulation entre la manière dont agit l'esprit et dont agit la parole. On voit qu'ils sont remplis de l'esprit. Je pourrais poser la question alors, mais du coup, pourquoi il fallait que ça passe par Moïse pour avoir les instructions? Si Dieu les a remplis de l'esprit, il aurait aussi leur donner directement par l'esprit les choses qu'il y avait à faire. Non, non. L'esprit équipe, mais la parole de Dieu donne les instructions. Et en l'occurrence, dans l'Ancien Testament, par le biais des prophètes. L'esprit équipe, mais la parole instruit. Et ça nous en dit déjà un peu plus sur l'importance pour nous aussi de veiller à être rempli de l'esprit, ne pas l'attrister, et veiller à être plongé dans sa parole. Ce qui compte pour les ouvriers, ce n'était pas seulement d'être volontaire, c'était que Dieu les qualifie. Nous sommes appelés à servir Dieu, je dirais, autant dans l'Église que dans le monde. Mais nous sommes surtout appelés à rechercher, en écoutant Dieu, si nous faisons bien sa volonté. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais une chose que j'ai remarquée quelques temps après avoir passé 4 années dans le ministère, dans l'église à Montbéliard, je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de choses par moi-même. Que le temps que je prenais pour prier, pour remettre les choses à Dieu, était beaucoup trop court. Alors j'étais plein de bonnes idées, plein de bonnes volontés. Pas bonnes idées, je ne sais pas trop, mais plein de bonnes volontés. Mais ça ne suffisait pas. Quel temps je prenais pour vraiment consulter Dieu ? Prendre le temps de s'assurer qu'on est dans les plans de Dieu. Parce que quand on voit des ouvriers qui sont qualifiés, que Dieu qualifie pour travailler l'or, etc., faire des ustensiles, moi ça m'a rappelé aussi autre chose. Tout au début de la Bible, il y a des gars qui avaient des secrets qualités pour ça aussi. Des descendants de Caïn, qui ont fait des instruments de musique, plein de choses. Mais ça ne les a pas servi à louer Dieu. Au contraire, ça leur a servi à s'éloigner de Dieu. Alors, on peut faire plein de choses par notre intelligence, par nos capacités. Mais est-ce que c'est pour l'intérêt de Dieu, pour l'intérêt de l'Église, ou est-ce que c'est pour embellir un monde déchu? Ce qui doit orienter ce que nous faisons, c'est que nous le faisons pour Dieu et en ayant remis, consulté, prié, demandé. Voilà, comment on l'a fait dimanche dernier? Qu'est-ce qu'a fait dimanche dernier pardon, son prénom m'échappe. Où est-ce qu'il est dans la salle? Quentin, voilà, merci. Il fallait que je voie le visage pour trouver le prénom. Désolé. Mais qu'est-ce qu'a fait Quentin dimanche dernier? Il nous a parlé de son projet d'aller à l'IBG. C'est pas juste pour qu'on lui mette un tampon sur une feuille pour dire « c'est bon, vas-y mon gars ». C'est parce qu'il veut que, pas juste lui, pas juste au groupe de maison, mais que toute l'Église en puisse aussi prier pour lui, pour dire « mais est-ce que c'est bien la volonté de Dieu ? Comment Dieu veut le conduire ? Comment Dieu veut l'orienter ?» C'est ça qui est important. Plus que même faire l'année à l'IBG. C'est que dans tout ce que nous faisons, nous puissions le remettre à Dieu. Même quand je sais bien le faire. Même quand je pense pouvoir le faire tout seul. Alors Dieu choisit, équipe, commande, il dirige les opérations. Mais Dieu, c'est lui en fait qui a inventé le slogan ou l'expression « Après l'effort, le réconfort ». S'il fallait donner un titre ce matin pour le site internet, c'est « Après l'effort, le réconfort ». Oui, Dieu, il vient de donner toute une liste de travail bien costaud, mais il rappelle le sabbat. Après le service, le repos. En gros, il dit, malgré tout le travail que je vous donne, respectez le sabbat. Mais quand je lis, je ne sais pas si ça vous a surpris, en lisant là, ce texte du sabbat, moi, il y a deux, trois choses qui me choquent. Alors, il parle que ça devient le signe de l'alliance, ok, il donne un sens nouveau, mais trois ou quatre fois, je crois, il dit, si vous ne respectez pas, vous mourrez. Vous serez retranchés du peuple. Dans Nombre, ça nous explique que les gens devaient être lapidés. Mais, attends, on a lu les 10 commandements, c'est pas écrit ça. Dieu, il n'a pas dit avant, dans Exode 20, que si on respectait pas le sabbat, on devait être mort. On devait mourir. Pourquoi il y a ça là? On pourrait juste dire, comme j'ai dit au début, là, mais voilà, il donne du travail, ok, c'est le lieu de culte, mais quand même, il dit de respecter le sabbat, ça se comprend, ça se tient. Mais pourquoi cette insistance sur le fait que si on ne respecte pas, on devait mourir? Mais ce qui est important, qui explique cela, je crois, c'est qu'il dit, voilà, il commence et il finit en disant, le sabbat, c'est le signe de l'alliance. À Noé, il avait donné un signe pour l'alliance. L'arc-en-ciel. À Abraham, il a donné un signe pour l'alliance. La circoncision. Au peuple, il donne un signe pour l'alliance, le sabbat. Alors le sabbat, c'est quand on connaît les évangiles, c'est un sujet un peu chaud. Hein. Jésus, il allait vite au clash avec ça. Hein. Ah, mais il était même un peu provoque hein, des fois. Il faisait exprès. Hein. Exprès de faire des miracles le jour du sabbat. Hein. Ah, c'était un sujet chaud. Il laissait même ses disciples grappiller des grains pour qu'ils mangent. Et j'ai lu un commentaire qui disait que, en fait, manger des grains comme ça, à l'arracher dans le champ, ça faisait un peu comme les grains qu'on prenait, c'était un peu comme un genre de chewing-gum. En fait, c'était même pas vraiment alimentaire, c'est plus comme ça pour l'apéro, quoi. Attends, Jésus, tu permets ça pendant le sabbat? Et en plus, on se rend compte qu'il fait exprès. Alors, le sabbat, d'accord, c'est cette alliance Dans toute alliance, on le voit dès le début de la Genèse, dans toute alliance, il y avait une forme de contrat. Et d'ailleurs, le passage termine avec les deux tables, qui n'étaient pas, comme on le pense souvent, 5 et 5, les 10 commandements. C'était plutôt, probablement, deux exemplaires de la loi, parce que les tables étaient recto verso, 5 et 5, 5 et 5. Les deux exemplaires, en général, c'était un pour chaque camp. Mais là, les deux ont été mis dans le coffre, dans l'arche de l'alliance. Dans toute alliance, dans tout contrat, il y avait un accord qui était passé et des règles qui fixaient cet accord. Et en gros, ce qui est nouveau ici, c'est que Dieu dit, dans l'alliance que je fais avec vous, ce qui est le symbole, le signe de cette alliance, c'est le sabbat. Et du coup, Dieu dit, si vous ne le respectez pas, comme à l'époque, les rois disaient à leurs vassaux, si tu ne respectes pas le contrat, voilà ce qui va t'arriver. Et Dieu dit là, si tu ne respectes pas l'alliance, voilà ce qui va t'arriver. Vous allez mourir. La Bible le confirme. Parce que quand le peuple part en exil, pourquoi ils partent en exil? Et combien de temps ils partent en exil? Dieu dit, j'ai recompté tous les sabbats que vous avez oubliés. J'ai recompté toutes les années, tous les 7 ans il fallait une année sabbatique. Et tous les 50 ans au jubilé, une année sabbatique où on remettait la dette aux esclaves, etc. J'ai recompté tout ce que vous avez oublié. Ça fait tant d'années. Donc vous serez toutes ces années-là en exil. Le contrat, l'alliance, ce qui en était le signe, c'était le sabbat. Ils ne l'ont pas respecté. Ils ont été tout autant de temps en exil. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'on en fait, nous, alors, du sabbat? Parce que là, on parle d'Israël. On voit d'abord que Jésus n'a pas supprimé le sabbat, il est allé à l'encontre de la compréhension que les pharisiens en avaient, à l'encontre de la pratique qu'il y en avait. Il rappelle que le sabbat n'est pas fait pour l'homme, mais l'homme pour le sabbat. Comment j'ai dit ça? Je vais relire pour être sûr que je ne dis pas de bêtises. Parce que s'il faut que je réfléchisse en même temps, c'est compliqué. Quelqu'un l'a dit?
Le sabbat est fait pour l'homme, mais non l'homme pour le sabbat. Voilà,
oui, c'est ça. Le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Parce que le peuple d'Israël, avec toutes les petites règles qu'ils avaient définies, ben c'était compliqué ou pas possible. Hein. Si un jour vous lisez des livres du judaïsme qui donnent un peu toutes les règles du sabbat, mais c'est un truc, mais c'est une usine à gaz. Hein. Les gars, ils ont le droit de faire 914 mètres, parce qu'ils ont décrété que 914 mètres, c'était encore pas du travail. Mais si vous faites 915 mètres de plus que plus loin de la maison, c'était foutu. Comment ils ont décrété ça? Mais je sais pas, c'est pas dans la Bible, mais ils ont décrété ça. C'est pas l'homme qui est fait pour le sabbat. C'est le sabbat qui est fait pour l'homme. Ça, c'est ce que Jésus rappelle. Jésus rappelle aussi autre chose qui est intéressant et qui nous concerne là. Il dit à un moment donné aux pharisiens, dans Jean 5, « En fait, les gars, Dieu, pendant son sabbat, en fait, Dieu, il travaille. Quand Dieu s'est reposé, d'une part, c'est pas dit que ça s'est fini. Mais est-ce que Dieu s'est reposé comme on le lit là, d'une manière imagée, à la fin du verset 17, il a cessé son œuvre et il s'est reposé, comme s'il était essoufflé. Mais Dieu, il n'est pas essoufflé. En fait, Dieu se repose, mais continue de travailler. Sa providence continue d'agir. Il continue d'intervenir tous les jours pour nous. Et Jésus argumente là-dessus pour dire, mais si mon Père travaille, moi je travaille aussi. Il y a des personnes qui ont besoin d'être sauvées, d'être guéries. » Jésus n'a pas supprimé en tant que tel le sabbat, mais il a affirmé son autorité sur le sabbat. Mais il faut aussi se rappeler que Jésus, quand il est né, c'était encore l'époque, comme on dit, de la loi. Et il s'est soumis entièrement à la loi pour que nous, pour l'accomplir, et pour que nous ne soyons plus soumis à la loi. Du coup, ça voulait dire aussi que les choses pouvaient changer et ont changé après la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce qu'on lit dans Colossiens, par exemple, dans Colossiens 2. Finalement, c'est que quand la réalité des choses, ce qui était annoncé, est là, ben, l'ombre, elle fuit. Si jamais vous êtes à un coin de rue, et puis que vous voyez une ombre qui s'approche, vous voyez que c'est un gros bonhomme avec un chapeau. Quand le gars, il tourne au coin de la rue, et que vous le voyez, ben, l'ombre, elle a disparu ou pas, mais en tout cas, on ne la regarde plus. C'est la personne qu'on regarde. Là, c'est pareil. Jésus est venu sur terre et il a tout accompli. Alors peut-être que certains diraient, oui, mais quand même, là, dans le texte qu'on a lu ce matin, c'est écrit, vous le ferez à perpétuité. À perpétuité. Alors il y a beaucoup de choses que le peuple devait faire à perpétuité, si on se rappelle bien. La circoncision, considérer certains animaux comme purs ou comme impurs, le sacerdoce des Lévites. Mais tout ça, le Nouveau Testament nous montre que tout ça, c'est fini. Donc finalement, ce n'était pas vraiment à perpétuité. Alors vous allez me dire, mais comment il faut... Attends, c'est compliqué là, ce que tu me dis. En fait, je rappelle, c'est une alliance, un contrat. Le roi dit à son vassal, Dieu dit à son peuple, voici l'alliance, le signe c'est le sabbat, vous devez le faire pour toujours. Ça s'applique à qui? Au peuple. Si Dieu décide de changer, ça ne s'applique plus. Les termes du contrat s'appliquaient au peuple. Mais si Dieu décide d'en changer, si Dieu nous dit que ça c'était juste un signe, l'ombre de quelque chose de plus important, eh bien ça peut changer. Et ça a changé. C'est vrai, c'est important de respecter le rythme travail-repos, travail-repos, parce que si Dieu a créé de cette manière-là, nous qui sommes faits à son image, qui, dans un sens, on ne crée pas de la même manière, mais on crée un peu comme lui, on ne crée pas à partir de rien, mais on crée des choses aussi, ben Dieu, si on est fait à son image, on doit aussi, finalement, c'est aussi bon pour nous de suivre ce rythme-là. Et je me rappelle avoir appris à l'école, je ne sais plus à quelle époque, quel roi de France, etc., mais à une époque... ceux qui sont plus calés que moi en histoire pourront me le dire, je fais appel aux professionnels, mais à une époque on a voulu faire des semaines de 10 jours, c'était quand, Jean-David?
La Révolution française,
je n'étais pas très sûr, je ne vais pas dire de bêtises, mais on a voulu faire des semaines de 10 jours, et puis qu'est-ce qu'on s'est rendu compte de quoi, que en fait les gens étaient très fatigués et que ça ne marchait pas du tout, et on est revenu à un rythme de 6 jours de travail, un jour de repos. Dieu a fait les choses comme ça, on est à son image, elles sont bonnes pour nous. Mais finalement, dans ce sabbat, je vais aller un peu plus loin, ce qui est au centre de ce passage, même si on est choqué par la mort, par ce terme de contrat, d'alliance, etc., ce qui est au centre, c'est un peu dans la construction du texte, c'est que ce jour devait être consacré à l'Éternel. Consacré à l'Éternel. Et c'est ça que j'aimerais voir un peu maintenant avec vous, en dernier point. Dieu nous appelle à son service. Il nous appelle à rentrer dans son sabbat, dans son repos, parce qu'il veut que nous soyons saints, comme il est saint. Que nous soyons consacrés pleinement à lui. L'homme et la femme ne sont pas seulement faits pour être absorbés dans leur travail, dans les choses de la terre. J'ai dû me rendre compte, il y a quelques mois en arrière, j'étais pour moi-même beaucoup trop absorbé dans mon travail, que j'aime bien, d'accord, mais beaucoup trop absorbé là-dedans. L'homme est fait pour regarder en haut, vers le ciel. Le sabbat, finalement, pour nous, c'est le signe du repos dans la foi. Comme le dit Hébreux 4, le repos des œuvres. Et finalement, un peu comme pour la dîme, on dit que tout ce que l'on a nous vient de Dieu, n'est-ce pas? Que tout appartient à Dieu. Mais on le démontre quand même concrètement en redonnant une part de ce que l'on a. Eh bien, quelque part, c'est un peu pareil pour le sabbat, pour le temps que l'on consacre à Dieu. Si on ne le faisait pas, les amis, je suis sûr que tôt ou tard, on serait loin de Dieu. Nous avons besoin, et besoin notamment ensemble, de ce temps qu'on passe le dimanche matin pour se plonger dans la parole, pour ensemble louer Dieu, le prier. Et tout pratiquement, il faut un temps libre, tous en commun, si on veut le faire. Donc c'est bien qu'on ait ce temps. C'est pas sous l'obligation, mais c'est la sagesse de Dieu, ce que l'on voit dans le sabbat, eh bien, qui nous sert de modèle aujourd'hui pour le temps que l'on passe ensemble. On voit aussi, et ça c'est, je trouve, assez d'actualité, que le sabbat dans la Bible était une protection pour les plus faibles. Combien de gens qui sont dans des situations vraiment précaires, fragiles, faibles aujourd'hui, sont obligés de travailler de manière complètement décousue et souvent très longtemps, très, très éparpillée. On ne vit pas pour le travail, on vit pour l'éternel. Et on voit aussi dans Hébreux 4 que, en fait, Hébreux 4 nous dit au verset 6 que le peuple d'Israël n'est pas rentré dans ce repos, dans le vrai sens du sabbat. Ils ne sont pas rentrés dans ce repos à cause de leur incrédulité, nous dit le texte. Et l'auteur doit nous rappeler que encore aujourd'hui, il y a un jour nouveau et que nous sommes appelés à ne pas endurcir nos cœurs et à entendre la voix de Dieu. Alors justement, entrer dans le repos de Dieu, qu'est-ce que c'est? Moi j'ai envie de dire, si ce matin vous ne comprenez pas, et je ne pense pas non plus avoir tout compris de ce que c'est complètement le repos de Dieu, tous ses contours, c'est pas grave. L'important c'est d'y rentrer. Et j'aimerais donner un élément qui semble essentiel pour rentrer dans ce repos, et qui va aussi avec ce qu'on a vu ce matin dans la manière dont Dieu agit. Parce que le repos de Dieu, c'est entrer dans une dimension de vie où on laisse Dieu agir par sa parole. Oui, c'est vrai, il faut se rappeler constamment que si on laissait faire notre nature, si on se laissait aller, on finirait par désobéir. Le repos de Dieu. C'est Jésus lui-même qui dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Et ce repos, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, c'est pas ne rien faire. Parce qu'il dit tout de suite, prenez mon joug. Mais c'est un joug léger. Prendre le joug, c'est, il le dit aussi, c'est recevez mes instructions. Vous avez pris des coups dernièrement? Vous avez des luttes de partout en vous? Recevez les instructions de Dieu. Finalement, ce qui est central pour entrer dans ce repos, c'est la place que l'on accorde à la parole de Dieu. Dieu, tout simplement, nous appelle à être réceptifs à sa parole, à nous mettre, à ce que l'on se mette à son écoute. Et il y a plein d'illustrations pour ça. Rappelez-vous, Marthe et Marie. Ce que faisait Marthe, c'était pas mauvais. Mais Marie avait fait le choix de se placer au pied de Jésus et de l'écouter. C'était ça qui était le plus important. Si ce matin, tu décides de te mettre à l'écoute de Dieu, de dire oui, je veux prendre du temps pour prier, pour lire ma Bible, pour écouter Dieu, je peux te garantir que le reste de ta vie va changer. Le problème, c'est que souvent, se mettre à l'écoute de Dieu, eh bien, on ne le fait pas. Au jour d'aujourd'hui, où il y a tellement d'aides, d'appareils, de choses pour nous aider à économiser du temps, on arrive à ne pas avoir de temps. Je ne suis pas très vieux, encore, mais quand je réponds juste à ma mère, quand j'étais petit, je dis, mais attends, on n'avait pas de lave-vaisselle, on n'avait pas de machine à laver, on n'avait pas ci, on n'avait pas ça. Et ma mère, elle avait du temps, elle prenait du temps, au moins une heure, pour prier et pour lire. Je dis, mais comment c'est possible? Ben si, c'est possible. Parce qu'elle le prenait le temps. Parce qu'elle s'organisait pour le prendre. Alors ce matin, si vous décidez de vous mettre à l'écoute de Dieu, Dieu va vous aider à le faire et Dieu va changer petit à petit votre vie. On lit toujours dans Hébreux que la parole de Dieu est vivante et efficace. Efficace, c'est autrement dit, c'est plein d'énergie. Ça redonne de la vie, ça redonne du tonus, ça redonne de l'énergie. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Mathieu, dans ta prière, la parole de Dieu, c'est aussi celle qui nous a engendrés, qui nous a donné au départ la vie. Et une autre image, un autre verset qui m'est venu, c'est dans 1 Jean. 1 Jean 2, verset 14, pour ceux qui notent. Jean dit aux jeunes gens qui sont forts et qui ont vaincu le malin. Qui sont ces jeunes gens qui sont forts et qui ont vaincu le malin? C'est ceux qui dont la parole de Dieu demeure en eux. Je m'adresse aux jeunes et aux moins jeunes et à ceux qui démarrent dans la foi. Si vous voulez être fort et vaincre l'ennemi, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Entrer dans le repos de Dieu, dans le véritable sabbat de Dieu, c'est pas seulement parce que Jésus est lui le vrai tabernacle, est lui l'offrande ultime, est lui le souverain sacrificateur, mais c'est parce que lui-même, par son sang, à la croix, nous fait rentrer dans ce repos de l'Éternel. J'aimerais prier pour conclure. Seigneur, ce rappel que tu m'as donné à cœur de transmettre ce matin, tu me rappelles aussi que je dois sans cesse le faire mien. Seigneur, que tu puisses agir dans nos cœurs et que tu nous donnes la force, et tu le fais, tu veux le faire, pour que vraiment on se place à ton écoute. Combien de fois j'ai envie de me plaindre et où je me rappelle cette parole de Jérémie qui dit « Mais avez-vous cherché l'Éternel ?» Seigneur, tu n'es pas un Dieu méchant qui veut juste punir pour punir. Des fois, tu reprends, parce que comme le dit la parole, tu châties ceux que tu aimes bien, tu reprends ceux que tu aimes bien. Mais si tu nous reprends, nous savons. Nous avons la promesse que c'est pour notre bien. Alors Seigneur, reprends nos cœurs et fais-nous entrer dans ce repos. Fais en sorte que cette semaine, tout particulièrement, nous puissions te prier, te demander que l'on puisse tenir les engagements qu'on a peut-être pris en début d'année pour lire ta parole. Qu'on puisse se mettre à ton écoute dans la prière. Et Seigneur, que si c'est difficile, si on ne sait pas comment le faire, on puisse aussi demander à le faire avec d'autres. Demander des conseils. Seigneur, vraiment, conduis-nous en tant qu'Église à ce que nous puissions être pleinement dans ta présence, que nous puissions voir par la foi ta gloire, que nous puissions voir des vies en notre sein et autour de nous, au dehors, des vies qui sont transformées par la puissance de ton évangile, par la puissance du salut que tu nous as acquis à la croix. Amen.